9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, c'est à votre skin ce matin, à votre peau. Je reçois ce matin deux experts du skincare, deux passionnés de cosmétiques depuis leur enfance, allez, adolescence. Coralie Peterman, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes docteur en data science, vous êtes blogueuse beauté, vous êtes sérieuse entrepreneuse, vous avez créé Chocomag il y a 10 ans. Qu'est-ce que c'était Chocomag?
Alors Chocomag, c'est mon blog beauté que j'ai créé il y a 10 ans en parallèle de mes études. Et aujourd'hui, c'est un projet qui fait complètement partie du projet qu'on a créé avec Laurent.
Voilà, Laurent, c'est Laurent Panne qui est à côté de vous. Bonjour Laurent et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Donc alias secret de peau sur les réseaux sociaux. Vous avez travaillé 3 ans dans une grande marque de beauté, on va dire. Mmh. Leader mondial d'ailleurs.
Exact. Alors leader mondial,
aujourd'hui,
je sais pas, mais en tout cas le grand groupe est leader mondial dans la cosmétique.
Voilà, vous êtes expert skincare également et ensemble vous avez créé MBC Mon Beauty Coach, un outil de diagnostic de la peau. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Et vous avez créé un livre qui s'appelle Skincare, objectif belle peau chez Albin Michel. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que dans votre livre, le produit de beauté indispensable à mettre tous les jours de l'année, c'est la crème solaire. Alors, ça peut surprendre beaucoup de gens, surtout en plein hiver. Mais pourquoi est-ce que pour vous, la crème solaire, c'est un produit qui s'utilise au quotidien? Qui commence?
Vas-y, Laurent.
Laurent.
Alors, déjà, quand on parle de crème solaire, on l'utilise pour se défendre contre les rayons UV du soleil. Et les rayons UV, il faut les distinguer un petit peu. On a les rayons UVA et les rayons UVB. Là où en été, on va avoir beaucoup de rayons UVB, les rayons UVA, eux, vont être assez constants tout le long de l'année. Or, c'est les rayons UVA qui sont vraiment mauvais pour notre peau, qui créent les taches pigmentaires, qui créent les rides, etc. Donc, si on a envie d'avoir une peau jeune, éclatante, etc., il faut utiliser de la crème solaire tout le long de l'année.
Mmh. Et alors, pour celles qui se maquillent, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre? Au-dessus de son maquillage, on met une crème...
Alors ça va être en dessous du maquillage, c'est la dernière étape de sa routine beauté et on va se maquiller par-dessus. Et c'est hyper important aussi parce que le maquillage ne protège pas contre les UV, parce que même si on a un fond de teint qui va être étiqueté SPF 50...
Alors ça vous expliquez pourquoi. Alors, c'est-à-dire que aujourd'hui dans les produits de beauté, on a une protection solaire?
Alors il y a certains produits comme notamment les bébés crèmes et les fonds de teint qui affichent souvent une protection solaire. Mais on ne va pas mettre la même quantité qu'une crème solaire. En général, on va en mettre un tout petit peu pour camoufler, etc. Et du coup, ce n'est pas une vraie protection solaire parce qu'on ne met pas une quantité suffisante pour avoir le SPF qui est affiché sur le tube.
Alors SPF pour tout le monde?
Sun Protection Factor, donc l'indice de protection contre les UVB uniquement et non les UVA. Donc ça, c'est intéressant. C'est la première chose à savoir, c'est que tout ce qu'on voit sur tous les packagings, quand il y a marqué SPF 50, ça nous protège juste des UVB. Or, c'est ce qu'on a vu il y a 2 minutes. Les UVA, c'est ceux qui sont vraiment délétères pour la peau, là où les UVB vont brûler la peau, le B comme brûlure.
D'accord. Ce qui veut dire qu'un produit qui vous protège contre les UVB ne vous protège pas du tout contre les UVA?
Alors, c'est une très bonne question. Ça va dépendre du type de produit. Si on est sur un produit solaire, la réglementation cosmétique impose que la protection UVA soit au moins d'un tiers de la protection des UVB.
Donc, au moins.
Au moins.
Donc, mais c'est-à-dire que c'est la même molécule, enfin je ne sais pas, c'est la même molécule qui protège, c'est le même filtre, pardon, qui protège contre les UVA et les UVB.
Ouh, on entre dans des questions qui sont complexes.
Non, je ne sais pas, parce que finalement, pourquoi on pourrait protéger d'un tiers et pas complètement en fait?
En fait, ça va dépendre de la formule qu'on va préparer avec les filtres solaires. On a une vingtaine de filtres solaires qui sont autorisés en Europe. Et le but du formulateur, ça va être de jongler avec ces différents filtres en différentes quantités pour faire une protection solaire. Il y a certains filtres qui vont mieux protéger contre les UVB, d'autres qui vont plutôt protéger contre les UVA. Maintenant, il y a certaines marques aussi qui communiquent sur le fait qu'elles ont créé un nouveau filtre solaire qui est spécialisé sur les UVA d'une certaine longueur d'onde. Et au final, le but, c'est de jouer avec tout ça pour se protéger sur toutes les longueurs d'onde des UV.
Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels il est affiché la protection contre les UVA ou pas du tout?
Alors aujourd'hui en France, on va retrouver un petit sigle avec UVA encerclé, avec un cercle autour, mais on ne sait pas exactement quel est le niveau de protection. On sait juste qu'on va avoir un tiers de la protection SPF qui va être notre protection UVA, mais des marques comme La Roche-Posay par exemple, le dernier solaire qu'ils ont sorti, ils sont sur du enfin une protection UVA de plus de 40 ou 45,
46.
Je crois. Mmh. 46, c'est ça? Mmh. Donc ça, c'est très élevé. Alors que si tu prends un SPF 50 classique, la réglementation t'impose d'être à peu près 16-17.
Au minimum 16-17.
En D'accord. protection UVA.
Sauf qu'en tant que client, quand tu achètes un produit solaire, tu ne sais pas si ta protection UVA pour du SPF 50, ça va être du 16 ou du 46. En général, les marques ne vont pas forcément communiquer dessus. Hmm. Donc, tu sais que c'est au moins un tiers, mais tu ne sais pas combien exactement.
Alors, il y a eu débat. Hein. Il y a vous distinguez deux catégories de filtres. Mm-hmm. Il y a les filtres donc, minéraux et les filtres organiques. Pourquoi ?
Alors, exactement, nous, on les distingue parce que aujourd'hui, notamment dans les produits bio, les filtres organiques sont interdits. On autorise uniquement les filtres minéraux. Et qui dit, dans les produits bio, on n'a que des filtres minéraux, dit, il n'existe aujourd'hui que deux filtres minéraux. Mmh. Or, les dermatologues, en France en tout cas, recommandent d'avoir au moins un alliage de 4 à 6 filtres différents pour que ce soit suffisamment efficace au niveau de l'absorption des rayons UV. Donc c'est pour ça que nous, on distingue, on va dire, les filtres minéraux des filtres organiques. Après, si un produit classique a des filtres organiques plus des filtres minéraux, très bien. Mmh. Le problème, c'est plus, on va dire, sur le côté très bio, où nous, on a un peu plus de mal, parce que ça ne suit pas vraiment la recommandation des dermatos. Mmh.
Alors, ce que vous expliquez, c'est que vous n'êtes pas du tout anti-filtre organique.
Tout à fait, ouais. Exactement. Quitte à se mettre une crème solaire, nous, notre positionnement, c'est de se dire, autant bien se protéger, quoi.
Mmh. Et les coraux, alors, dans ces cas-là ?
Alors, pour les coraux, c'est compliqué parce que la communauté scientifique n'est pas d'accord. Déjà, eux, ils font leurs essais sur des aquariums. Du coup, quand on fait un test sur un aquarium, c'est un milieu fermé. Ça ne représente pas forcément l'océan où il y a des mouvements d'eau et c'est beaucoup plus grand en termes de volume. Donc, l'impact de la crème solaire sur l'océan, finalement, est assez minime. Là où il faut faire attention, c'est plus quand on va être dans des milieux fermés comme des lacs, des... Comment ça s'appelle ?
Des lagons. Enfin,
des lagons, très bien, c'est le mot que je cherchais.
Mmh. Bon, il y a des coraux et où l'eau bouge beaucoup moins.
L'eau bouge beaucoup moins, si on met beaucoup de crème, là, ça va vraiment rester ici. Et après, il y a un autre point aussi, c'est de dire, on a eu beaucoup ce débat où on disait, mais tout ce qui est filtre organique, ça va tuer les coraux. Or, aujourd'hui, il y a des études qui ont démontré, notamment dans les coraux du Golfe Persique, que les filtres minéraux, ils n'étaient pas non plus tout bons pour ces coraux-là. Donc, on ne sait plus trop où se positionner par rapport à ça. C'est assez complexe. Mais notre recommandation globale, c'est de se dire aussi, protégez-vous le plus possible aussi avec des vêtements, avec un chapeau, avec des lunettes, etc. Parce que là, la protection, elle est vraiment topissime.
Mmh. Et en fait, la vraie protection contre le soleil, c'est de ne pas y aller, c'est ça ?
C'est ça. C'est déjà de se protéger
ou d'y aller
avec
habillé.
Chapeau et vêtements.
Ouais.
Exactement. Et d'y aller habillé, pas avec des vêtements semi-transparents, etc. Parce que c'est vrai qu'en été, on a tendance à prendre du lin et de se dire, c'est joli. Sauf que si c'est mouillé, en fait, on perd la moitié de la protection solaire du vêtement. Mmh. Et si on a une peau qui est très claire, avec du lin qui est mouillé, etc. par-dessus, on risque de se prendre des coups de soleil et d'avoir des cancers de la peau sur le long terme.
D'accord. Donc, votre recommandation, ce sont donc des produits qui protègent des UV toute l'année.
Exactement.
En gros, sur le visage, mais pas que.
Sur les mains aussi, c'est important.
Sur les mains. C'est assez intéressant pour les personnes qui vont avoir pas mal de taches sur les mains. Elles vont souvent se dire, non, mais ça, c'est le vieillissement, c'est moi qui suis en train de vieillir, etc. Et la recommandation qu'on a eue, que j'ai trouvée top, d'une dermatologue qui bosse pour de la Roche-Posay, c'est de mettre sa main juste à côté de sa hanche et de comparer la peau. Et en fait, on voit que la hanche, c'est le vrai vieillissement naturel de la peau, sans avoir été exposé. Et la main, en général, les taches, on ne les retrouve pas des deux côtés, quoi.
Alors, les gens qui passent leur journée au bureau et qui ne sortent pas du bureau, est-ce qu'ils ont besoin de se mettre de la crème ?
Ça dépend si on bosse derrière une baie vitrée ou pas. Si on est dans une pièce plutôt sombre et qu'on n'est pas proche d'une fenêtre, il n'y a pas trop de risque d'avoir une problématique d'UV. Après, pour les trajets entre son domicile et le travail, ça peut être intéressant quand même de mettre une crème solaire. Nous, c'est ce qu'on fait avec Laurent, on fait du télétravail, mais on se met quand même de la crème solaire tous les jours. Du coup, ce n'est pas tant pour le côté santé, parce qu'on n'est pas tant que ça à risque, mais c'est plus pour le côté esthétique, pour bien vieillir, limiter les taches, les rides, etc.
C'est ça, c'est que ça fait le soleil, ça abîme la peau, et après il y a des taches.
Exactement.
On parlera des taches. Donc, pour celles qui utilisent donc des produits de maquillage avec un SPF de 15 ou de 20, ça les dispense de mettre de la protection solaire ou pas ?
Absolument pas. Et ça, justement, c'est un des points où il y a le moins d'éducation pour le consommateur. En fait, les produits de maquillage, contrairement aux produits solaires, c'est-à-dire une crème solaire, le produit de maquillage n'a pas cette obligation d'ajouter une protection contre les UVA. Là où le produit solaire est obligatoirement une protection UVA d'un tiers de celle des UVB. Donc, il est possible, en fait, en utilisant un produit de maquillage avec un SPF 25, qu'on n'ait aucune protection contre les taches cutanées, contre les rides et surtout contre les UVA, quoi.
Alors, Laurent, est-ce que c'est parce que vous avez travaillé chez un grand leader mondial des crèmes solaires que vous recommandez les crèmes solaires tous les jours ?
Alors, absolument pas. Et c'est une très bonne question parce que c'est la question que je me suis posée quand je suis rentré chez L'Oréal. Je me disais, mais bien évidemment qu'ils vont recommander leurs trucs en grande quantité, etc. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde vraiment les tests qui sont faits sur les crèmes solaires pour savoir si ça protège suffisamment la peau, quand on regarde toutes les informations qu'on peut avoir de la part de l'Organisation mondiale de la santé, etc., et des dermatologues, clairement, le soleil, c'est évident que si on s'expose au soleil très souvent et qu'on a beaucoup de coups de soleil pendant sa jeunesse, on a énormément de chances de développer des cancers de la peau. Mais le lien est de cause à effet est hyper direct, quoi.
Mmh. Le soleil, c'est un faux ami, hein. Ça fait du bien au moral. Alors, c'est vrai que la mode des peaux bronzées commence à passer un petit peu, hein.
Totalement. Ça commence à passer, mais en même temps, c'était totalement une tendance, en fait. C'est la peau bronzée, c'est pas quelque chose qui nous vient depuis la nuit des temps. C'est parce qu'on a de plus en plus de vacances en France, parce qu'on travaille de plus en plus dans des bureaux. Plus personne ne travaille dans les champs, ou très peu de gens travaillent dans les champs. Et du coup, les gens qui sont dans les bureaux, ils ont envie de pas se ressembler. Ils sont pas tous blancs comme un linge. Du coup, ils vont aller bronzer, ils reviennent, ils montrent qu'ils ont des moyens de partir à Tahiti, quoi.
Mais est-ce que les gens qui avaient l'habitude de travailler justement, comme vous le dites, qui faisaient du travail dehors, ils se mettaient de la crème, de la protection solaire toute l'année ?
Non, probablement pas.
Ça fait pas très longtemps qu'on parle de problèmes de risque du soleil, etc. Mmh. Et d'ailleurs, hier, je regardais les stories d'une copine que je suis depuis 10 ans sur les blogs, qui s'appelle le blog de Laura. Et justement, elle racontait que son mari, qui a 30 ans, avec une vie complètement normale, ils se sont pas surexposés au soleil, ils sont pas partis sous les tropiques, etc. Et pourtant, à 30 ans, il a fait un début de mélanome, un début de cancer de la peau. Et elle repartageait hier, du coup, elle faisait de la prévention pour dire, mais attention, protégez-vous. Elle va marcher tous les jours pendant 1h30 et elle expliquait qu'elle préférait mettre de la crème solaire pour justement éviter ça à nouveau de son côté. Et elle racontait que son mari, au-delà du problème santé, mentale, etc., c'est pas très marrant de passer par là, il y a aussi un enjeu esthétique parce que lui, il a dû se faire retirer du coup son début de mélanome et ça représente 42 points de suture sur le visage. Donc forcément, ça laisse des traces.
Allez, on parle de crème solaire ce matin avec mes invités Coralie Peterman et Laurent Pan, AVS jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Coralie Peterman et Laurent Pan sont experts skincare. Ils ont écrit tous les deux un livre qui s'appelle Skincare Objectif Belle Peau chez Albin Michel. Et on parle de la crème solaire, puisque pour vous, ça fait partie de la routine quotidienne. Il faudrait se mettre de la crème solaire tous les jours de l'année sur le visage, mais sur les mains et puis sur les bras également quand ils sont exposés. Alors déjà, il y a une question de, quand on parle de crème solaire, combien on en met ? Quantité, parce que souvent on fait un petit pchit, hein,
Alors ça, c'est de la question qui revient souvent. On a nous-mêmes posé la question à un spécialiste de l'association Sécurité Soleil et il nous a répondu que la recommandation de l'OMS, c'est de mettre beaucoup de crème solaire parce qu'en fait, les tests faits par les laboratoires quand ils testent la crème solaire pour afficher si c'est du SPF 30 ou 50, c'est avec des quantités énormissimes. Il nous disait que par exemple, pour un corps entier, si on veut avoir la même dose que celle utilisée par le laboratoire pour tester sa crème, ce serait un quart d'une bouteille de 200 ml pour un corps entier. Aujourd'hui, évidemment, personne ne fait ça. Donc l'idée, c'est toujours d'en mettre plus que ce qu'on pensait mettre. et ça sera toujours mieux que rien. C'est vraiment, si on met que 3 gouttes et qu'on étale au maximum, ça sera pas bon. Donc l'idée, c'est de trouver la quantité qui est acceptable, qu'on a envie de mettre, qui ne nous gêne pas et qui nous permettra d'être protégés.
Et qui se voit pas, parce que ça fait des bâtons, la crème solaire un peu.
Alors aujourd'hui, on trouve des crèmes solaires de mieux en mieux formulées qui ne laissent pas forcément de fini blanc. Et ça, souvent, ça s'est rendu possible principalement grâce aux filtres organiques. Si tu prends justement des crèmes solaires bio qui ont que des filtres minéraux, bah, qui dit minéral, c'est de la poudre de minéraux, là, tu finis avec un fini très, très blanc. En tout cas, dans 90% des crèmes solaires bio que j'ai testées, c'est un fini très, très blanchissant.
Sur moi, ça se voit pas, mais par contre, sur toi,
ça se voit. Et alors on renouvelle l'application tous les combien ?
À peu près toutes les 2 heures, en général, on recommande, mais ça va vraiment dépendre de la situation dans laquelle on est. Si, par exemple, on est corallier, qu'on a une peau hyper blanche et qu'on est en train de faire une balade sur la montagne en plein cagnard, toi, en général, tu le réappliques toutes les une demi-heure, une heure. Et dès qu'il y a une partie qu'elle réapplique un peu moins, on voit tout de suite, la dernière fois, c'est
rougi,
qui rougissait, etc. Donc, alors que moi, je rougis moins, mais c'est hyper important d'en réappliquer souvent. Et c'est même beaucoup plus important d'en appliquer souvent que d'en appliquer la bonne dose, comme ce qu'on disait tout à l'heure.
Donc, il faut renouveler les applications, mais là, c'est quand on est en situation d'exposition, quand même.
Bien sûr. C'est si tu t'exposes au soleil, si tu vas dans l'eau, si il y a beaucoup de vent avec du sable qui peut, du coup, abîmer ton filtre solaire. Quand tu es dans un cadre métro, boulot, dodo au quotidien, tu n'as pas forcément besoin de réappliquer ton produit solaire.
Alors, comment on choisit une bonne protection solaire ? Déjà, est-ce que toutes les marques se valent en termes de protection ?
À partir du moment où il y a un SPF qui est affiché sur un produit solaire, c'est qu'il a été testé en laboratoire. Donc, en Europe, on peut faire confiance au SPF qui est affiché sur un produit. Après, le meilleur produit, en fait, c'est celui qu'on va avoir envie d'appliquer tous les jours, tout simplement. Parce que tu peux acheter le meilleur produit sur le papier qui a la protection la plus efficace. Si la texture ne te plaît pas du tout et que ça reste dans le placard, que tu ne le mets pas, ça ne sert à rien au final.
Mais alors, si j'ai bien compris, il n'y a qu'une protection à acheter, vous. Enfin, il n'y a qu'un indice à acheter, c'est 50.
Alors aujourd'hui, dans ce qu'on peut voir sur le packaging,
ce que vous dites, c'est que le reste ne sert à rien.
Ça dépend de la protection solaire UVA, en fait. Au niveau des UVB, entre 30 et 50, on est sur quelques pourcentages de différence en termes de protection UVB. Par contre, si on regarde la règle des 1 tiers pour les UVA, entre 30 et 50, ça fait une énorme différence si la marque a décidé d'être au ras des pâquerettes de la réglementation cosmétique. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à recommander un SPF 50. Après, aujourd'hui, il y a des marques qui communiquent sur la protection UVA, qui proposent des SPF 30, mais avec des protections UVA très élevées, beaucoup plus élevé du coup que ce qu'il devrait faire d'un point de vue réglementaire. Et là, c'est pas gênant du coup d'avoir que du 30 en UVB du moment que la protection UVA est très forte.
Un SPF 50, c'est ce qu'on appelait un écran total auparavant, ou c'est différent ?
C'était SPF 50 plus les écrans totaux.
D'accord.
Avant, on avait le droit d'afficher SPF 100, de parler d'écran total. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. La réglementation nous impose de parler de SPF 50 plus à la place.
Ah, on ne peut plus dire écran total ?
Non, ça ne se dit plus. Parce qu'en fait, ça donnait l'impression qu'on était complètement protégé avec un écran total. Et du coup, on mettait de l'écran total une fois dans la journée. Et puis après, hop, on faisait la crêpe sur la plage. Et ce n'était pas bon du tout pour la santé. Du coup, par mesure de précaution, on ne parle plus d'écran total.
Alors moi, j'avais l'impression de ne pas du tout bronzer avec un écran total. C'est une idée reçue ou c'est vrai ?
Ça va forcément absorber une partie des rayons UV, donc on bronze moins vite, mais on bronze mieux. Parce que si c'est pour bronzer tout de suite, cramer et après avoir la peau qui pèle, la peau qui pèle, en fait, elle fait partir une bonne partie du bronzage avec. Et en plus de ça, en prime, au fil des années, on se retrouve avec des cancers de la peau. Ça, c'est pas terrible, quoi. Donc mieux vaut bronzer tranquillement, petit à petit, avec son SPF 50, mais on bronze.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens peuvent aller très vite, très loin en avion, mais qu'ils n'ont pas un mois pour partir en vacances, donc ils veulent en 10 jours optimiser leur capital soleil. Donc c'est pour ça que les gens peut-être ont tendance à s'exposer plus.
C'est marrant que tu parles d'optimiser son capital soleil, parce qu'ils le consomment finalement beaucoup, beaucoup plus rapidement que prévu. Donc, et le capital soleil, on sait que chaque personne a un capital soleil durant sa vie et qu'il se consomme très, très, très rapidement en fonction de sa couleur de peau.
D'accord. Et une fois qu'on a utilisé le capital soleil,
Après, c'est vêtements, crème solaire, plus, c'est le dermato, etc. Quoi, parce qu'on ne peut plus s'exposer.
C'est ça que ça veut dire.
Ouais.
Est-ce que les peaux, alors par exemple méditerranéennes, doivent mettre autant de crème que les caucasiens ?
Eh bien oui, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont aussi exposés au risque de cancer de la peau qu'une peau claire. Ils sont un tout petit peu plus protégés. Statistiquement, ils ont moins de risques de faire un cancer de la peau, mais ce n'est pas pour autant que le risque zéro n'existe pas. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les cancers de la peau sont souvent plus graves chez les peaux mates ou foncées parce qu'ils sont détectés plus tard, parce qu'ils pensent être protégés. Du coup, ils ne vérifient pas leur grain de beauté, ils ne vérifient pas...
C'est-à-dire que les peaux noires, par exemple, doivent mettre de la crème solaire de la même façon.
Bien sûr.
Se protéger du soleil. C'est-à-dire que la couleur de la peau ne vous protège pas finalement du soleil.
Alors la couleur de la peau va protéger parce qu'on va avoir plus de mélanine dans une peau qui est foncée que dans une peau qui est claire. Mmh. Et la mélanine, ça protège les cellules de la peau, ça protège l'ADN de la peau pour éviter qu'on ait des cancers qui se développent. Sauf que ça ne protège pas complètement. Ça ne protège pas au même niveau qu'une crème solaire. Donc au fil du temps, si on s'expose tout le temps même si on a une peau noire, on finit par avoir des coups de soleil, c'est possible aussi, et on finit par développer des cancers de la peau. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est un peu...
C'est-à-dire que le message santé, voilà. Il passe pas beaucoup à ce niveau-là.
Exactement, le message santé, il passe pas du tout.
Enfin, on a cette idée que les gens qui sont du bassin méditerranéen peuvent vivre plus facilement au soleil sans se protéger que les autres.
Pas du tout. Moi, j'ai une anecdote par rapport à mon amie Virginie qui s'est mariée et qui est partie en lune de miel sur les îles avec son mari. Elle a la peau mate, son mari a la peau noire. Mmh. Le premier jour, elle commence à s'appliquer sa crème solaire et son mari lui dit « Mais non, mais moi, je suis plus fort que toi. Sous-entendu, j'ai la peau plus foncée, du coup, je ne risque rien. Mmh. » Premier jour, il a fait une insolation, énorme coup de soleil. Il a été obligé de rester pendant toute la lune de miel dans la chambre d'hôtel tellement il avait la peau brûlée. Alors que pourtant, il a la peau noire très foncée, donc lui se sentait protégé, alors que pas du tout, en fait.
Alors, vous conseillez quel type de contenant, vaporisateur, tube de crème, qu'est-ce qui est le plus efficace ?
Nous, on a tendance plutôt à recommander la crème classique, la crème solaire. Pourquoi ? Parce que le vaporisateur, y a quand même une bonne partie du produit qui part dans l'air. S'il y a un petit peu de vent, on n'arrive même pas à se le vaporiser. Et finalement, on ne voit surtout pas la quantité qu'on a appliquée sur le corps. Ou sur les bras ou sur le
dos. Oui, parce qu'il y a maintenant ces crèmes transparentes, en fait. Voilà,
oui, transparent, parfois même on a la brume, on n'est même plus sur
la brume. Ouais,
on est
ouais.
sur la brume, ouais. Et du coup, il y a un petit coup de vent, on se dit, bon, je ne sais même pas si je me suis appliqué bien le produit. Et ça peut ne pas être aussi uniformément appliqué sur le visage. Donc ça, ce n'est pas terrible en termes de protection. Quoi.
Vous êtes pour le bon vieux tube de crème.
Le bon vieux tube, mais avec une belle formulation qui donne une texture agréable, etc. Ça, c'est top. Quoi.
Alors, il y a quelque chose, il y a une idée reçue, là aussi. On ne conserve pas ces tubes de crème d'une année sur l'autre. Pourtant, au prix où ça coûte, on n'a pas envie d'aller toujours de racheter un tube de crème. Mais pourquoi on les conserve pas d'une année sur l'autre ? S'ils ont été ouverts, attention.
S'ils ont été ouverts, exactement. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, un produit solaire, c'est déjà extrêmement difficile à formuler, parce qu'on a énormément de filtres solaires. En général, les filtres solaires vont composer 15 à 25% de la composition totale des ingrédients. Et ça fait que c'est quand même beaucoup plus instable. Si on a commencé à l'utiliser, il y a de l'air qui rentre et qui peut oxyder le produit, qui peut oxyder certains des filtres. Donc, l'année suivante, quand on le réutilise, potentiellement, on n'a plus un SPF 50 dans la bouteille de SPF 50 qu'on avait. Et on ne sait plus exactement quelle est la protection solaire qu'on a. Donc, quitte à se protéger encore une fois, autant être sûr de la protection qu'on a avec soi.
C'est-à-dire qu'on les jette, les tubes, ils ne servent à rien ?
Tu peux les utiliser au quotidien quand tu te balades en ville et que du coup t'es pas sous un indice UV très très fort. C'est juste que au-delà de la période d'ouverture recommandée, en général c'est de 6 mois qui est recommandé, c'est affiché sur le tube, au dos du tube en général. Au-delà de 6 mois, on peut pas garantir que ce sera toujours le SPF affiché sur le tube. Donc c'est surtout un enjeu de santé, de protection. Donc si tu pars en vacances sous les tropiques, bon... Vaut mieux racheter un tube, c'est plus sécurisant. Si c'est juste pour utiliser au quotidien sur les jambes, les bras, parce que tu fais un trajet de 30 minutes dehors, c'est toujours mieux que rien.
Alors, il y a des zones auxquelles on ne pense pas toujours, et notamment qui sont très sujettes au vieillissement, ce sont celles des yeux, les paupières et sous les yeux. On met de la crème solaire sur les paupières et sous les yeux ?
Totalement.
Mais, les yeux risquent rien ? C'est pas des zones sensibles à la crème ?
Ce sont des zones qui sont plus fines, donc plus sensibles naturellement. Il faut vraiment tester la crème solaire, choisir une crème solaire qui va être assez douce pour cette zone-là aussi. Mais en fait, si on n'applique pas de crème solaire sur cette zone, le truc, c'est qu'on prend tout le soleil et vu que c'est plus fin, ça a tendance à se rider, à avoir des cernes, des poches, etc. beaucoup plus rapidement. Après... Au-delà d'utiliser une crème solaire, le meilleur moyen aussi de se protéger, c'est d'utiliser des lunettes de soleil tout le temps.
Et un chapeau.
et un chapeau. Voilà.
Bon, quelles sont les marques solaires auxquelles vous faites confiance? Parce que Laurent, je sais que vous faites beaucoup, vous, des tops là, de produits que vous aimez bien. Est-ce qu'il y a des tops de produits qu'on peut conseiller aux gens?
Alors non, on va avoir deux types de solaires qu'on va conseiller.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de choix. Hein. Je ne peux pas dire toutes les marques aujourd'hui font des solaires et on s'y perd un peu. Et on les choisit, on finit par les choisir en fonction de l'odeur.
Alors nous, on va avoir deux catégories en fait de produits solaires qu'on recommande. Ceux qu'on va considérer comme des solaires de ville et des solaires de plage.
D'accord. Alors solaires de ville, par exemple.
Solaires de ville, on va recommander des marques comme SOS Serum ou Biplane. Ce sont des produits en fait qui sont pas forcément très connus en France aujourd'hui, mais les textures sont juste addictive. Donc c'est parfait pour une utilisation au quotidien. Ce sont des textures qui sont plutôt légères, qui n'accrochent pas à la peau et qui sont pas en mode genre j'ai l'impression d'être à la plage. Quoi.
Au niveau du prix, on est dans quelle gamme?
Au niveau du prix, on est autour de 15 à 20 euros à peu près.
Quel prix d'une crème solaire, on va dire.
C'est le prix d'une crème solaire.
Moyenne, ouais.
Exactement. Et pour tout ce qui va être plage, on va plutôt recommander des produits de parapharmacie. En général, ils sont un peu moins agréables. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des textures de plus en plus agréables. Donc, deux marques, par exemple, ça va être La Roche-Posay ou Eucérine. Et là, on va choisir en fonction de ce qu'on recherche. Mais là, on sait que les protections contre les rayons UVA, en général, sont bien, bien, bien dosées. Donc, quand on part à la plage, on est sûr d'être protégé.
Alors, un des désagréments du soleil, ce sont les taches sur la peau. On en a parlé tout à l'heure. On va voir comment on lutte efficacement contre ces taches.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, ce matin, nous parlons de la protection face au soleil et payer des soins cosmétiques ou esthétiques pour lutter contre ces taches tout en n'utilisant pas de crème solaire au quotidien. C'est un peu comme appuyer en même temps sur le frein et l'accélérateur. C'est une phrase que vous retrouverez dans le livre de mes invités ce matin, qui s'appelle Skincare, objectif belle peau, chez Albin Michel et Coralie Peterman et Laurent Pan sont mes invités. Mais c'est vrai que les gens passent leur vie à se faire des masques, à s'enlever les taches, mais ils protègent pas leur peau contre le soleil. Donc exactement. Ça, c'est un peu un non-sens. Hein.
On nous demande tout le temps comment je peux faire pour enlever mes taches, c'est quoi la meilleure crème pour lutter contre les taches. Et en fait, le premier geste à avoir quand on veut éviter les taches ou quand on veut pas qu'elles augmentent, c'est d'appliquer de la crème solaire. Ça sert à rien de payer des soins une fortune pour au final tout gâcher parce qu'on porte pas de crème solaire et du coup le soleil continue de créer des nouvelles taches et d'empirer celles qui existent déjà.
Bon, les taches, c'est dû à ce qu'on appelle l'hyperpigmentation, c'est ça?
Exactement.
Alors qu'est-ce qui marche efficacement et que vous avez testé contre les taches, Laurent?
Alors contre les taches, on va utiliser différentes molécules comme l'alpha-arbutine, l'acide tranexamique, etc. Pourquoi? Parce que ces molécules ont été prouvées comme étant efficaces sur les taches cutanées, sur le processus en fait de la création de mélanine. Après, la marque Eucérine dernièrement a sorti une molécule qui s'appelle le thiamidol et ils ont réussi à prouver que le thiamidol était immensément plus efficace que toutes ces molécules qu'on utilisait et qu'on considérait déjà efficaces contre les taches cutanées. Donc voilà, aujourd'hui il y a quand même pas mal de solutions et pas mal de molécules intéressantes à explorer.
Il y a vraiment des produits qu'on peut appeler anti-taches et est-ce qu'on peut mesurer leur efficacité à court ou moyen terme?
Totalement, bah c'est ce que font les laboratoires dermatologiques ou les marques. Elles vont vraiment le faire tester à pas mal de gens qui ont des taches cutanées pour voir quelle est l'amélioration au fil du temps. Et elles vont faire des tests dermatologiques, c'est-à-dire avec des médecins qui vont regarder l'évolution de la peau au fil du temps.
On sait que ça marche, mais par contre, il faut être patient. Selon l'intensité de la tache et puis la profondeur aussi dans la peau où elle est située, ça peut prendre plus ou moins de temps. Des fois, au bout de 15 jours, il y a certaines personnes qui sont en mode « mais c'est génial, ça commence déjà à diminuer ». Mais pour certains types de tâches, ça va être plusieurs mois qu'il faudra attendre avant de voir une évolution.
Oui, c'est pas magique. Hein. C'est pas parce qu'on a utilisé une fois le produit sur la tâche que ça l'a fait disparaître.
Hein. Pas du tout.
Mais c'est pas une gomme, quoi.
Oui, mais les gens ont l'impression que s'ils ont acheté un produit très cher, souvent ça fonctionne immédiatement.
Non, la tâche cutanée, c'est vraiment un des problèmes les plus difficiles et les plus longs à faire partir en général. Donc, faut pas être trop impatient, quoi.
Bon, et comment on arrive à bout donc des tâches cutanées et des cicatrices? Donc là, à ce moment-là, il y a toute une routine beauté qu'il faut mettre en place.
Exactement. Donc, on va utiliser une routine qui va être anti-tâche, donc sérum, crème, etc. Et on va utiliser une crème solaire pour prévenir les futures tâches aussi.
Alors vous, j'ai vu que vous préconisiez, Laurent, l'acide azélaïque, Shkounadek, qu'est-ce que c'est?
Alors l'acide azélaïque, c'est surtout Coralie qui l'utilise en plus énormément,
ouais.
Mais c'est un ingrédient cosmétique qui est assez efficace contre les rougeurs, contre les taches cutanées, contre les boutons également. Enfin voilà, c'est un ingrédient qui est assez global. Et c'est pour ça qu'on l'apprécie bien.
Et il a l'avantage d'être plutôt doux. En fait, c'est un ingrédient qui va légèrement exfolier la peau parce qu'il a le nom acide dedans. Mais c'est pas comme un acide glycolique ou un AHA, où là, c'est des acides beaucoup plus forts. Ici, avec l'acide azélaïque, c'est beaucoup plus doux et c'est souvent même utilisé par des peaux qui ont des problèmes dermatos comme de la rosacée. En plus de ça, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un petit effet matifiant. Donc, quand on a la peau grasse, c'est très sympa d'avoir cet effet-là.
D'accord.
Bon, en fait, c'est un peu l'ingrédient qui fait à peu près tout.
C'est-à-dire que vous avez de l'acné, on y va, et puis vous avez des boutons, on y va, c'est ça?
C'est ça, t'as un peu de boutons, t'as un peu de rougeur, t'as une peau un peu sensible et t'as quelques taches, ce qui finalement va souvent ensemble, eh bien c'est un bel ingrédient. Là où l'alpha-arbutine par exemple va être plus efficace sur la tache, mais elle est vraiment focalisée sur la tache et pas sur le reste.
Alors on avait un ami tout à l'heure qui était en studio qui avait des petits problèmes de transpiration. Vous, Laurent, vous utilisez, non je ne donnerai pas le nom, vous Laurent, vous utilisez la fameuse acide glycolique, de The Ordinary. Pourquoi ça fonctionne contre les odeurs des aisselles?
Alors ça pas forcément, enfin ça peut fonctionner un petit peu sur les odeurs des aisselles. On va surtout l'utiliser aussi pour parfois éclaircir un petit peu les aisselles, parce que certaines personnes considèrent qu'elles ont des aisselles un peu plus foncées que le reste du corps. Donc c'est un ingrédient qui est assez simple, hein, qu'on va utiliser pour avoir ce côté un peu anti-odeur, mais ça reste léger.
Mais là aussi, c'est sans danger, on peut l'utiliser sans précaution?
Alors si, il faut quand même l'utiliser avec un peu de précaution, parce que l'acide glycolique, c'est un acide qui est assez fort. Ça va venir enlever les couches de peau morte à la surface de la peau. Donc il ne faut pas en abuser, il ne faut pas aller au soleil après. Parce que si on a affiné sa peau et qu'on va au soleil, là, on flingue sa peau, quoi. Encore plus.
Les taches de corps, vous les enlevez de la même façon que celles du visage?
Oui, on est sur les mêmes mécanismes. Ouais. On est sur les mêmes mécanismes de peau où il y a de la production de mélanine et petit à petit la mélanine va migrer dans les cellules de la peau et c'est comme ça que les taches apparaissent. Que ce soit sur le visage ou le corps, on est sur les mêmes mécanismes.
Bien. Alors, sur les routines quotidiennes que vous préconisez dans votre livre, à quel moment on applique la fameuse crème de protection solaire?
Alors la crème solaire, ça va être en toute fin de routine. Donc on va faire sa routine complète avec le nettoyant, la lotion, le sérum, la crème de jour. Et ensuite, on va appliquer sa crème solaire. Éventuellement, si on a une peau mixte à grasse, on peut se passer de crème de jour et passer directement à la crème solaire. Comme ça, ça évite de démultiplier les couches de produits.
Et donc pour celles qui se maquillent, donc c'est après la crème solaire, c'est ça?
Exactement. C'est une fois qu'on a mis sa crème solaire, on attend un petit peu qu'elle pénètre bien et qu'elle sèche. Comme ça, c'est plus agréable pour se maquiller après. Et on se maquille par-dessus.
Laurent, qu'est-ce que vous avez contre la crème Nivea? Ils vous ont refusé un contrat?
Non, en plus, j'ai déjà travaillé avec eux sous contrat pour un autre de leurs produits. Moi, j'ai rien du tout, en fait, contre les marques en tant que telles. Moi, je vais vraiment focaliser.
Vous déconseillez souvent la crème Nivea.
Exactement.
Mais pourquoi? Expliquez-nous pourquoi.
En fait, c'est une crème qui est bourrée, en fait, d'huile minérale, de pétrochimie, quoi, on va dire, dérivée de pétrochimie. Et nous, on considère que ce sont des ingrédients qui ne sont pas forcément utiles à la peau au quotidien. On peut trouver de meilleurs ingrédients pour réhydrater la peau, comme l'acide hyaluronique. On peut utiliser des huiles végétales qui vont venir, on va dire, apporter ce côté nourrissant, qui vont réparer la barrière cutanée aussi. L'huile minérale, en fait, on va la mettre sur la peau et elle va rester à la surface. Sa seule utilité, c'est d'empêcher la déshydratation de la peau, ce qui est très bien. Mais on peut aussi réhydrater la peau autrement, la nourrir, lui apporter autre chose, etc. Donc aujourd'hui, on peut faire mieux, je trouve, que la crème Nivea.
Que la petite boîte bleue, qui n'est pas chère quand même. Et qui n'est pas chère et à tout faire.
Exactement. Bon, après, c'est bien, hein, si on n'a pas forcément les moyens, qu'on veut juste quelque chose d'hyper simple, etc., on ne va pas se faire de mal avec la crème Nivea. Elle va très bien fonctionner, elle va empêcher la déshydratation de la peau. Et on sait que la déshydratation, ça cause aussi le vieillissement, les rides, etc., sur le long terme. Mais voilà, nous, on préfère utiliser des ingrédients où on s'est dit... Il y a une utilité directe sur la peau et non indirecte, quoi.
Alors, un mot pour tous ceux qui voudraient avoir le teint bronzé, mais qui ne voudraient pas s'exposer au soleil, sur les auto-bronzants. Est-ce qu'aujourd'hui, les auto-bronzants ont fait des progrès sur, on va dire, l'effet naturel?
Alors, au niveau de l'effet naturel, oui, ça va dépendre des marques, de la texture. Par exemple, on voit beaucoup les auto-bronzants sous forme de mousse qu'on applique avec un énorme gant coloré en général et on frotte ça sur sa peau. Et ça permet du coup d'avoir un effet beaucoup plus naturel parce que c'est mieux réparti, c'est plus uniforme du coup au niveau de la couleur. Et au niveau des textures, on a aussi de plus en plus de marques qui proposent des auto-bronzants sous forme de gouttes. Du coup, c'est très liquide et on peut l'appliquer par exemple avec une petite éponge à maquillage ou au doigt si on étale bien. Alors, je conseille plutôt l'éponge à maquillage parce que personnellement, je l'ai étalée au doigt et je n'ai pas bien étalé, je me suis retrouvée avec des traces.
C'est un peu le problème des autobronzants, souvent, c'est qu'en général, on les étale mal.
Ben, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des petits outils à côté pour être sûr de bien étaler.
Vous avez des marques à conseiller d'autobronzants ?
Moi, en ce moment, j'utilise beaucoup ceux de Clémence et Vivien parce que c'est une petite marque bio que j'aime beaucoup et ils viennent de sortir un autobronzant du coup bio au format liquide du coup. Et ben, c'est celui où la première fois que je l'ai utilisé, ça n'a pas bien marché, mais maintenant avec une éponge, c'est parfait.
Vous arrivez à avoir un aspect doré.
Exactement. Là, j'en ai pas mis là.
Non, c'est ce que j'étais en train de regarder et je ne l'ai pas dit, mais bon. Mais quelle gamme de prix ?
On est sur du 12 euros, je crois, 13 euros.
Quelque chose comme ça.
Quelque chose comme ça.
Ouais. Attention, l'autobronzant ne protège pas des rayons du soleil non
pas
plus.
Pas du tout.
C'est un très bon point, ça, justement. Je ne sais pas si tu veux que j'apporte quelques précisions. Ouais. Ça, justement, j'en avais parlé avec Pierre, le directeur de l'association Sécurité Solaire. Je lui disais, mais si moi je produis de la mélanine et que je suis marron et que l'autre me colore la peau et que je suis marron, pourquoi est-ce que je ne suis pas protégé de la même manière du soleil ? Parce que, en fait, l'autobronzant va donner cette couleur marron et c'est ce qui va se refléter dans notre œil quand on va le voir. Donc ça veut dire qu'il absorbe la longueur d'onde qui donne cette couleur marron. Mmh. Or, la mélanine, elle va absorber aussi cette longueur d'onde, mais elle va aussi absorber les UV, les rayons UV. Donc elle a une utilité qui va bien au-delà. Là où ça, c'est un colorant, c'est un truc en fait qu'on trouve même dans des aliments aujourd'hui qu'on va mettre sur la peau.
Oui, donc c'est un colorant, oui.
C'est voilà. tout simplement un colorant en fait qu'on va s'appliquer sur la peau. Ça va colorer la peau en surface et c'est pour ça que ça part beaucoup plus rapidement. Là où les taches cutanées, c'est de la mélanine, ça vient de très 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 profond dans la peau. Ça, bah, dès que on part du soleil et qu'on reste 10 jours à la maison, et ben on n'a plus rien quoi en général, voire moins que 10 jours.
Alors quels sont les actifs que vous nous conseillez de privilégier après une exposition au soleil ? Est-ce que l'après-soleil, finalement, c'est vraiment quelque chose d'utile ?
Ça va être intéressant pour les peaux qui ont été sensibilisées par le soleil. Moi, par exemple, quand je m'expose au soleil, on peut être sûr qu'après, je vais avoir la peau rouge, sensible, voire parfois un peu plus sèche aussi. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de miser sur des ingrédients actifs un peu réparateurs, comme par exemple des céramides.
D'accord. Mmh. Et donc ça, on les trouve dans les... c'est marqué après-soleil enrichi en céramides.
Bah, pas forcément après soleil, parce que ça, finalement, c'est un terme marketing. Ça reste un lait pour le corps classique dans lequel on met des ingrédients spécifiques après soleil. Mmh. Mais maintenant, il y a aussi des laits pour le corps qui contiennent naturellement des céramides. Moi, j'en ai pas là en tête. Je sais pas si.
J'en ai pas non plus en tête.
Il y a des soins, faits, soi-disant, réparateurs après soleil, réparateurs pour la peau. Ça, c'est. Ça fonctionne
pas. Bah, faut faire attention, en fait, aux produits qu'on va acheter, parce que si on se retrouve avec un produit qui se veut hyper facile à étaler, hyper frais après le soleil, bah, potentiellement, le côté frais, c'est l'alcool dénaturé qu'on retrouve dedans, qui va déshydrater encore plus la peau. L'après solaire peut avoir aussi beaucoup, beaucoup de parfums, parce que très souvent, on a envie de sentir le monoeil et l'huile de coco juste après, et bah, tout ça en fait c'est pas bon pour la peau, surtout si elle a été un petit peu endommagée par le soleil. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on choisit, et du coup on va vraiment choisir des produits qui vont contenir des céramides, de la Centella Asiatica, des huiles végétales ou du beurre de karité. Bah, tout ça, ça va aider à réparer la peau. On va aussi chercher des ingrédients comme l'acide hyaluronique qui va venir réhydrater la peau, parce qu'après tout le soleil qu'on a pris, ça s'est déshydraté. Naturel.
Bon, vous l'avez compris, la crème de protection solaire, il faut en mettre tous les jours, même quand on est bronzé, parce que quand on est bronzé, on n'est pas protégé. C'est ça qu'il faut comprendre.
Exactement. Un petit peu plus protégé, ouais. Mais clairement pas suffisamment pour contrer les effets délétères du soleil, quoi.
Et la suite est dans votre livre. Alors, je rappelle que ça s'appelle Skincare, Objectif Belle Peau, chez Albin Michel. Merci à Coralie Peterman. Votre adresse sur les réseaux sociaux.
C'est Chocomag sur Instagram et mon blog c'est chocomag.com avec un K.
Voilà, Laurent Pan également.
Sur Instagram et TikTok, @secretdepeau.
Voilà, vous nous retrouverez donc en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin et très belle journée santé et au soleil sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.